Alors, entrevue avec Monsieur Réal Ménard, maire d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, élu pour une première fois en 2009 et puis réélu en 2013 pour un deuxième mandat. C'est aussi en novembre 2013 que Monsieur Coderre nomme Monsieur Ménard responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts. Alors, notre première question, Monsieur Ménard, puisque vous avez été député fédéral dans la circonscription d'Hochelaga de 1993 à 2009, est-ce que vous pourriez brièvement nous parler des différences entre votre rôle de député fédéral et celui de maire d'arrondissement en termes d'implication avec la population?
C'est assez différent parce que au municipal, c'est vraiment centré sur la proximité. Alors, les gens viennent beaucoup nous voir, que ce soit pour la question des rues, des parcs, du déneigement. Donc, c'est vraiment une relation de proximité centrée sur quelque chose de très, très, très concret. En termes d'heures, c'est à peu près les mêmes. Tu n'en sors pas beaucoup quand tu es un élu qui fait sérieusement son travail, entre 65 et 70 heures, ce que je faisais comme député. Mais comme député, je portais des dossiers, reconnaissance des droits des gays, la démilitarisation, reconversion de l'industrie militaire, le logement social. Donc, c'était plus macro. Et quand les gens venaient nous voir, dans les responsabilités qu'on avait, c'est l'immigration, c'est les pensions. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence au niveau de la proximité et des dossiers qui sont beaucoup plus macro. Et la différence fondamentale, c'est qu'à tous les soirs, je vais coucher chez moi, tandis que, et qu'on siège beaucoup moins sur le plan parlementaire. On siège au conseil de ville 2 jours par mois, tandis que à Ottawa, tous les députés doivent être là 4 jours par semaine, 10 mois par année. Donc, c'est pas le même rapport, si vous voulez, à l'institution, puis c'est beaucoup plus centré sur la proximité avec les gens.
Et quand vous parlez de proximité, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la démocratie représentative? C'est effectivement plus près au niveau...
Tout à fait, parce que les gens, à tous les mois, on a un conseil d'arrondissement, donc les gens peuvent venir nous poser des questions. Hier, c'était notre conseil dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, puis moi, je suis toujours sur le terrain, là, puisque je n'ai pas allé à Ottawa, donc je peux faire des activités à tous les jours, toute la fin de semaine. Et puis, les gens viennent au conseil de ville. Les conseils de ville, les gens viennent poser des questions. Alors, la démocratie directe se vit davantage au niveau municipal qu'au niveau fédéral. Au niveau fédéral, peut-être la différence, c'est qu'on a peut-être plus d'outils pour communiquer avec la population dans la mesure où le service des postes étant de juridiction fédérale, à tous les jours, on pouvait écrire à l'équivalent de 10% de nos concitoyens. Les gens ne payent pas pour nous écrire. On a des envois parlementaires qu'on pouvait faire 4-5 fois par année à nos concitoyens, ce qu'on n'a pas au niveau municipal. Évidemment, on est plus souvent dans les journaux, puisque les journalistes s'intéressent peut-être plus à la politique de proximité, mais s'il fallait faire des distinctions, en termes de communication avec les citoyens, on a plus d'outils au niveau fédéral.
Peut-être revenir un petit peu en arrière, puisque vous avez parlé des deux, du fédéral et du municipal. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à la politique et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé vers le municipal?
Bien, ce qui m'a amené à la politique, très tôt dans la vie, j'ai su que je me réaliserais dans ça, que j'aimais les gens, que j'aimais parler, que j'aimais l'analyse, les dossiers, la lecture. Et puis, moi, j'avais quand même fait de 1993 à 2009. Alors, j'avais fait 6 campagnes électorales, dont 3 gouvernements minoritaires. Alors, j'avais quand même fait 16 ans de politique fédérale. Et quand j'ai décidé d'aller au niveau municipal, c'est parce que j'estimais avoir le tour. Parce que quand j'ai quitté, moi, le bloc était encore à 38% des intentions de vote. Bon, c'est en 2008 que tout ça se décide et que je prends les décisions. Évidemment, l'histoire allait donner une autre tangente, hein, parce qu'on connaît la suite des événements. Mais quand moi, j'ai décidé de partir, il n'y avait pas de signe précurseur d'une défaite du bloc. Et c'est vraiment parce que j'avais le goût de réaliser des choses. C'est au niveau municipal, si tu décides de faire un exil, si tu décides d'investir dans tel ou tel projet, tu le vois. Tandis que quand tu travailles au niveau macro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles réalisations. Moi, j'ai adoré ce que j'ai fait. Au niveau fédéral, j'en garde un très, très bon souvenir. J'ai vraiment la conviction d'avoir été un élément qui, dans certains dossiers, ne serait-ce que l'adoption d'une loi anti-gang. Moi, j'avais porté ce dossier-là parce que la mort du jeune Daniel Desrochers était survenue dans mon quartier. Mais au niveau municipal, tu vois vraiment au day-to-day, au quotidien, la différence que tu peux faire pour les gens. Et c'est plus difficile aussi parce que tu peux plus facilement mécontenter les gens.
Oui, et c'est aussi la même raison, mécontentement ou contentement, qui fait que du fédéral, vous passez au municipal en restant dans le même district.
Ah, tout à fait. Oui, parce que moi, j'aurais pas voulu faire de la politique ailleurs que là où je suis né, que j'ai grandi, où j'ai été scolarisé, où j'habite, où j'ai été impliqué. Là. Je voudrais pas faire de la politique ailleurs que dans Merci, Hochelaga Maisonneuve.
Ça m'amène peut-être à la deuxième question. Vous voulez pas faire de la politique en dehors d'eux. On va vous demander peut-être un peu plus concrètement votre rôle au sein du comité exécutif, parce que là, vous élargissez quand même votre rôle en dehors de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Et précisément, d'abord, votre rôle au comité exécutif et en tant que responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts.
C'est ça. Alors moi, quand je dis que je ne veux pas faire de la politique ailleurs, je voulais dire comme élu, mais je suis prêt à prendre d'autres responsabilités. Alors, j'ai eu les transports dans l'administration de coalition avec M. Applebaum et M. Blanchard. Quand j'ai été élu, quand j'ai été réélu là, en 2013, M. Coderre m'a proposé le développement durable, ce que vous avez mentionné. Bon, alors, l'environnement, dans le fond, concrètement, ça veut dire que je suis responsable de toute la question de la gestion des matières résiduelles. Alors, vous savez, à Montréal, on a le recyclage, on s'en va vers le compostage. Alors, ça, c'est une responsabilité très importante au niveau de l'environnement. L'environnement, c'est la qualité de l'air. Donc, j'ai été responsable au niveau du règlement sur le chauffage au bois. J'ai été responsable de toute la question du débat sur le plastique. Donc, c'est toute la gestion des matières résiduelles, c'est la qualité de l'air, c'est les sols contaminés. Alors, ça, c'est le volet environnement pour la ville de Montréal dans ces grandes lignes. C'est bien d'autres choses, mais disons, dans ces grandes lignes. Au niveau des grands parcs, bien, on a 25 grands parcs. Dont, qui sont de, il y a à peu près 1300 parcs dans des parcs de quartier, on a Parc Saint-Clément, mais il y a 25 grands parcs qui sont des parcs nature ou des parcs métropolitains, du Cap-Saint-Jacques en passant par le Parc La Fontaine, Parc Viollerie, Parc Anguignon. Bon, moi, je suis responsable de ces dossiers-là et je suis responsable de toute la question du plan d'action Canopée. Alors, vous le savez, à la Ville de Montréal, on envisage de planter 300 000 arbres sur 10 ans. Hier, je faisais d'ailleurs une conférence de presse sur ça. Donc, dans mes responsabilités comme responsable des grands parcs, j'ai toute la question de l'arbre, des parcs. Je suis responsable du plan de développement durable de la Ville de Montréal. Alors, la Ville de Montréal, on est en faire son troisième plan de Ville de Montréal. On a des dizaines de mesures pour s'assurer que Montréal soit une ville, si vous voulez, de plus en plus verte. Alors, ça veut dire, par exemple, de ne pas utiliser de bouteilles d'eau dans nos institutions. Ça veut dire comment, au niveau du développement durable, on a des pratiques où quand on construit des bâtiments, on s'assure d'économiser de l'énergie. Donc, on a des dizaines de mesures. Et moi, je suis responsable de ce plan-là. Et je suis également responsable du parc Jean-Drapeau. Alors, le parc Jean-Drapeau, vous le savez, est un des beaux parcs de la ville de Montréal. C'est une société paramunicipale. Alors, mais c'est une société qui est autonome dans son fonctionnement. Mais c'est le comité exécutif qui nomme le conseil d'administration et le directeur, et tous les contrats de plus de 1 million doivent passer par le comité exécutif. Et dans mon portefeuille de responsabilité, j'ai toute la question du système d'inspection des aliments. Alors, on a ce pouvoir-là délégué par le gouvernement du Québec. Donc, tous les restaurants à Montréal, il y en a à peu près 15 000. Alors, c'est ultimement ma direction qui est responsable de s'assurer de la salubrité des aliments. Donc, c'est pas mal de travail.
Oui, effectivement. Oui, c'est très, très large. Mais au niveau décisionnel, parce que vous me dites que vous êtes responsable, jusqu'à quel point, exemple, vous amèneriez, vous êtes responsable de prendre des décisions ou de couper ou de décider sur tel ou tel dossier? Ou si ça se décide vraiment en équipe ou à l'intérieur du comité exécutif?
Mais c'est-à-dire, la responsabilité, il y a 13 membres du comité exécutif, si vous incluez le maire. Dans chacune des directions dont on a la responsabilité, c'est nous qui défendons les dossiers au comité exécutif. Alors, si on vote un dossier pour investir 2 millions au parc Jarry, c'est ma direction qui d'abord me le présente et qui, après ça, c'est moi qui porte publiquement le dossier. Mais ultimement, toutes ces décisions-là sont d'abord vues par le maire. Alors, le maire, à chaque lundi matin, a ce qu'on appelle une statutaire, et les grandes décisions qui concernent l'administration doivent être validées par le maire, mais c'est moi qui imprime les directions, qui a le pouvoir d'initiative dans chacun des dossiers dont j'ai la responsabilité. Mais ultimement, il faut que ce soit voté au comité exécutif et en conseil. Donc, la politique, c'est profondément collégial, là, puis particulièrement quand on est à l'administration. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est moi qui décide seul. C'est une décision d'équipe, mais je suis imputable dans les dossiers que je vous ai mentionnés et j'ai le pouvoir d'initiative, puis ultimement de faire des recommandations aux différentes instances et c'est ultimement décidé en équipe, mais évidemment, il y a un travail, il y a un droit de regard sur tout ce qui se fait par le premier magistrat de la ville, qui est le maire de Montréal.
Ah, ok, d'accord, merci. Et peut-être revenir brièvement sur par rapport au travail, parce que tout ce que vous avez nommé à votre poste de responsable au niveau du comité exécutif, versus la mairie d'arrondissement, en heure de disposition de travail, ça se divise comment? Parce que c'est du temps plein, là, vous parlez de 70 heures, donc c'est plus que du temps plein. Comment, lequel des deux prend le plus de place?
Moi, j'essaye de... vous voyez, je suis à peu près 70 heures par semaine. Là. J'essaye de faire, c'est peut-être 60% la mairie, 40% l'hôtel de ville. Parce que moi, je suis dans un arrondissement qui est très populeux. Hein, merci à chaque maison-là, c'est le quatrième arrondissement le plus populeux. Quoique des fois, on dit qu'on est le troisième. On est à peu près que c'est quoi avec Rosemont. Là. Mais c'est sûr que là, ça me demande quand même beaucoup de temps comme maire, parce que je ne suis pas conseiller, donc ça veut dire qu'il faut que à chaque semaine, je rencontre les directeurs de service, on a des statutaires, puis on a retourné les appels des citoyens, par exemple, ou les répondre aux courriels. Je vous dirais qu'il faut que je prévoie au moins une heure par jour, là, où les gens vont m'appeler, retourner les appels, faire des suivis. Moi, je ne veux pas perdre ce contact-là. C'est très important pour moi de rappeler les citoyens, de savoir s'il y a un problème de nid-de-poule sur telle rue, tout ça, là, de garder ce contact avec les citoyens. Mais c'est à peu près 60-40.
OK, ben ça nous donne déjà une bonne idée. C'est important, merci d'avoir aussi amené l'idée de garder le contact avec les gens et le temps que vous apportez aussi accordé à tous les jours. Ben, pour l'instant, moi, j'arrêterai. Peut-être une troisième question qui sera de la part...
Plus épineuse, peut-être, qui porte sur un sujet d'actualité. Je vais vous faire tout d'abord une mise en situation, puis il va y avoir une question à la fin et c'est par la suite à vous d'élaborer sur la question. Donc, on entend beaucoup parler ces derniers temps du projet Cap Nature à Pierrefonds-Ouest. À ce sujet, les critiques sont d'avis que ce développement engendrera la plus grande destruction de terres agricoles du Grand Montréal depuis des décennies et que le projet s'inscrit dans une logique de dépendance à l'automobile. On sait aussi qu'il existe plusieurs zones urbaines exigeant requalification au sein de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro qu'il serait possible de redévelopper, donc revitalisation urbaine, plutôt que de poursuivre dans la logique de l'étalement urbain. Ce projet n'entre-t-il pas en contradiction avec les visées de la politique sur la protection des milieux naturels et du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise?
Écoutez, regardez, le projet de Pierrefonds-Ouest, dans le fond, d'abord, ça ne peut pas être de l'étalement urbain. Parce que si on dit que c'est de l'étalement urbain, ça veut dire qu'à Montréal, on va développer seulement entre Anjou et Verdun. On ne fera jamais rien dans les extrémités. On ne développera jamais rien à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On ne développera jamais rien à l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, puis certainement pas à Pierrefonds-Ouest. Alors, les Montréalais qui habitent dans les, disons, les périphéries ou les extrêmes sont en droit de s'attendre qu'il y ait des projets de développement. Deuxièmement, n'oubliez jamais la donnée la plus fondamentale du projet de Pierrefonds-Ouest. On va créer l'équivalent de l'espace du Mont-Royal en termes de milieu protégé naturel. Alors, ça va être la première fois dans la vie de la ville de Montréal, il y a eu un jeu de cession de terrain avec des promoteurs, puis on va protéger à peu près 183 acres, hectares, pardon, alors que le Mont-Royal, c'est 190. Donc, on va protéger l'équivalent du Mont-Royal, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel de créer plusieurs milliers de logements. Il y a encore des demandeurs. Il faut s'assurer que ce soit des logements de qualité. Il faut s'assurer que ce soit des logements qui répondent à une certaine demande. Mais il y a le problème de la rétention des familles. Alors, il y a encore, si on répond pas à cette offre-là, bien, ça veut dire que les gens vont continuer d'aller à Laval, vont continuer d'aller en Montérégie, vont continuer d'aller dans les Laurentides ou à Longueuil. Alors, c'est un projet qui me semble-t-il, c'est le point de vue de l'administration, qui est équilibré entre le besoin de protéger un certain nombre de milieux naturels. C'est pour ça qu'on crée l'équivalent d'un parc qui va avoir la même superficie que le Mont-Royal, mais également de répondre aux besoins des familles pour des demandeurs additionnels. Et avec ce projet-là, vient tout le projet d'un boulevard pour lequel il y aura du transport collectif, pour lequel il y aura des autobus, une piste cyclable, tout ça. Là. Alors, ça me semble un projet équilibré. Et surtout, on peut pas tout faire en temps de jour et Verdun. Il faut qu'il y en ait aussi pour les extrémités. Mais c'est un projet qui va aller à l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. Si jamais on nous disait que ce n'est pas un beau projet, l'administration est toujours très sensible à ce qu'on tient vraiment en haute estime. On accorde beaucoup de crédibilité à l'Office de consultation publique de Montréal. Et on a dit dès le début du processus que c'est le CPM qui va conduire les consultations. Et on pense que le projet est équilibré. Et si moi, j'ai rencontré à deux reprises la Fondation David Suzuki, on est prêt à regarder là, certains milieux. Si on a mis ça dans des aires de développement, on est prêt à regarder pour voir s'il ne va pas y avoir un transfert de terrain. Mais protéger l'équivalent du parc du Mont-Royal, c'est quand même considérable.
Sur des terres qui sont pour le moment en friche milieu naturel, donc ça vient quand même à détruire un milieu naturel.
Sauf que si on se campe dans cette logique-là, on se condamne au statu quo partout. Parce que c'est sûr que la logique ultime, c'est de ce qui était significativement et environnementalement significatif est déjà protégé. Maintenant, c'est sûr que si on nous dit, on a la même logique avec le parc Jean-Drapeau, c'est sûr que quand on est dans un milieu qui n'est pas construit, il y a des espèces, il y a des gens qui y vont, mais est-ce que ça veut dire que c'est significativement à protéger sur le plan environnemental? Ce qui était significativement à protéger sur le plan environnemental l'a été. C'est sûr qu'un milieu en friche est plus susceptible d'avoir une génération de milieux qu'un milieu qui est construit. Mais sinon, on se condamne au statu quo, on se condamne à garder tout ce qui est vert-vert, à tout ce qui est pour être résidentiel, à rester résidentiel, alors qu'il faut avoir l'équilibre. Et c'est le projet de Pierrefonds-Ouest.
D'accord. Et vous m'avez mentionné qu'il y aurait du transport en commun intégré au projet par l'entremise du boulevard urbain. Pourtant, on sait bien que quand on augmente l'offre de transport routier, habituellement, ça s'accompagne d'une augmentation aussi du trafic. Et comme c'est un quartier plutôt excentré, on peut d'emblée accepter qu'il va y avoir une très forte motorisation des ménages, donc congestion supplémentaire sur les autoroutes.
La différence, c'est que ce transport-là, il faut que la STM offre un espace, il faut qu'il y ait un autobus, il faut qu'il y ait du transport collectif.
Avez-vous prévu déjà l'arrimage avec...
Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une piste cyclable, il faut qu'il y ait du transport collectif. Là. Mais c'est sûr que si on regarde Pierrefonds-Ouest, si on regarde Rivière-des-Prairies, si on regarde les Bizarres, c'est sûr que les gens sont probablement plus motorisés qu'ils ne le sont dans Rosemont, dans Verdun ou dans Charleville-Maisonneuve. Mais la dimension transport en commun fait partie intégrante du projet. Mais sinon, on se condamne dans une logique qui devient un peu... C'est du nihilisme parce qu'on se dit les gens ont des voitures, mettons pas de transport en commun parce qu'ils sont habitués à se déplacer en voiture. Donc, si on veut que les gens abandonnent les voitures, l'idée, c'est de pas dire on construit pas dans ce secteur-là, c'est d'offrir une offre de transport collectif robuste qui va faire en sorte que les gens vont faire le transfert en ce qu'on appelle le transfert intermodal, vers un mode de transport plutôt qu'un autre.
Et présentement, on doit effectuer, j'imagine que l'autobus qui desservira le site devrait effectuer une correspondance au terminus Fairview dans la structure actuelle des choses. Est-ce que vous pensez que le développement d'un SLR vers l'aéroport et le terminus Fairview ferait partie de la solution? Vous qui avez aussi siégé au comité transport, comme vous l'avez dit précédemment.
Moi qui ai eu les transports. Dans le débat public tel qu'il est engagé, on est dans un train de l'Ouest, mais on n'est pas dans ce projet-là avec un système léger sur rail. Ça fait pas partie des éléments du débat. On est dans une offre de transport qui va être assumée par la STM.
Par la STM directement?
Directement.
D'accord.
Et exclusivement.
Parfait.
J'avais peut-être revenir brièvement, parce que là, on a couvert un peu large par rapport au projet de Pierrefonds, mais vous, en tant que responsable, justement, des espaces verts, si jamais à l'OCPM, ça ne passe pas, pour X raisons, est-ce que vous envisagez, vous avez une solution B ou un plan B, ou même C, dans le cas de quand même poursuivre le projet, mais... ou en gardant cet espace-là, peut-être l'agrandir, parce que je crois que vous avez un pourcentage aussi au niveau d'augmentation à viser, une visée de passer de 6 à 10 % de protection des milieux humides.
Pour les milieux naturels, oui. Puis c'est vrai, on veut passer, on est à peu près à 6 % on veut passer à 10 % pour les milieux terrestres protégés, on veut passer à 17 % Mais on va se ranger à ce que l'OCPM va dire. Si l'OCPM nous disait de ne pas aller dans ce sens-là, je serais la question est hypothétique, là, mais je serais très surpris que l'administration ne se colle pas d'assez près aux revendications ou à l'analyse qui va être déposée au comité exécutif par l'OCPM.
OK, fait que ça peut être... En fait, OK. Merci, on va suivre ça certainement tous de près puisqu'on en est impliqués. Oui?
J'aurais peut-être une petite dernière question qu'on n'avait pas prévue, mais qui vient de surgir. Quand vous parlez de rétention des familles, pourquoi est-ce qu'on ciblerait pas prioritairement le redéveloppement du site de l'hippodrome?
Bien, il est ciblé. Il y a cinq projets qui sont ciblés. Hein? Vous avez Griffintown, vous avez Pierrefonds-Ouest, vous avez dans l'extraordinaire arrondissement de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, l'Assomption. Après ça, vous avez dans Rosemont tout le secteur Marconi. Alors, nos pôles de développement sont tout à fait ciblés, là, et c'est certain que celui-là est un, mais c'est pas le seul point, c'est pas le seul pôle de développement dans les prochaines années qui est ciblé, là. Alors, dans l'Assomption, il y a aussi un potentiel pour plusieurs milliers de logements, là. Dans Griffintown, il y a aussi... Mais non, mais il y a un potentiel. Écoutez, si vous regardez les documents officiels de la ville, vous allez voir que depuis quelques années, les pôles de développement pour lesquels on espère, en lien avec une logique top, avec une logique de transport en commun, l'Assomption est un bon exemple parce que c'est à côté du métro l'Assomption, c'est moins vrai pour Pierrefonds, donc il faut pallier pour un système de transport collectif, là, mais nos pôles de développement.
Le train de l'Ouest, vraiment.
Il y aura le train de l'Ouest, mais qui est quand même distinct. Hein, qui est quand même distinct parce que sur le boulevard qui va être construit, il n'y aura pas de train. Puis on n'est pas dans une logique de système léger sur rail. Là. Mais les pôles où il y a de l'espace pour construire sont connus dans nos documents officiels. Il y a Pierrefonds-Ouest, mais il y en a d'autres. Il n'y en a pas 50 autres parce qu'à un moment donné, les ressources ne sont pas limitées dans une ville. Là, mais...
D'accord. Merci.
Peut-être brièvement, parce que je vois que bon le temps, mais parce qu'on allait le mentionner d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez en parler, le fait que quand vous êtes rentré, vous avez été député fédéral, vous êtes rentré sous Vision Montréal, maintenant vous êtes sous coalition, le parti de coalition Montréal, et vous avez annoncé prochainement que vous allez faire partie de l'équipe de Nicodère. Alors peut-être brièvement, nous raconter qu'est-ce qui vous fait passer d'un parti à l'autre ou qu'est-ce qui vous amène à...
Savez, moi, quand le maire m'a appelé en novembre 2013, je lui ai dit, moi, je ne change pas de parti. Je ne porte pas de jugement sur ce qu'ils font, mais moi, j'ai reçu un mandat sous la bannière de la coalition et à moins que le parti n'existe plus, je vais aller jusqu'en 2017 avec cette bannière-là. Maintenant, pour 2017, ce que j'ai annoncé il y a deux semaines, c'est que nous, à la coalition, on n'est pas à la recherche d'un candidat à la mairie de Montréal. On avait convenu d'honorer notre mandat, mais le parti n'existera pas. Le parti ne fera pas partie de l'offre électorale. Donc, dans le prochain mandat, et c'est la population qui va juger, est-ce que j'aurai encore la confiance de la population, mais c'est eux, mais moi, je vais pas me représenter avec la coalition qui n'existera plus. Je vais me représenter avec l'équipe du maire Coderre, mais je ne change pas de parti d'ici là. À moins que mon parti n'existe plus. Si demain matin, le directeur général des élections, il y a une demande pour radier le parti, vous comprenez que là, on est dans une autre situation. Mais jusqu'en 2017, un peu avant, là, mais jusqu'en 2017, moi, je reste sous la bannière de la coalition parce que c'est le mandat que j'ai reçu. Et là-dessus, je suis assez conservateur. Quand vous vous présentez et vous mettez votre nom sur un bulletin de vote, mais vous honorez le mandat que vous avez reçu.
Exactement. Puis de Vision Montréal, le précédent.
Bien, Vision, parce que avez... Vision, moi j'étais avec l'équipe de Mme Ariel, Vision n'existe plus là. Alors, je me suis fait élire, on a décidé je me suis fait élire dans mon premier mandat en 2009. Après ça, on s'est rendu jusqu'à le début 2013, puis Vision n'existait plus là. Alors, il y a une coalition qui s'est formée. Cette coalition-là a présenté des candidats. Moi, j'ai été élu avec d'autres collègues. Puis, on fera un mandat avec la coalition. Puis, là, bien, vous connaissez les événements. Marcel Côté est décédé. Puis tout ça. Bon, la coalition n'existera pas comme parti politique à la prochaine élection. Puis, au niveau municipal, c'est pas comme au niveau provincial ou au niveau fédéral. Souvent, les partis politiques sont très liés à des leaders. Là. Hein, la typologie des partis politiques n'est pas la même au niveau municipal qu'au niveau fédéral ou qu'au niveau provincial. Là.
Excellent. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et pour toutes les informations que vous nous avez partagées. Merci beaucoup et bonne journée.